Alfred et mon chemin au chasseur oriental. J'ai repris totalement ce que
tu dis. C'est libre de commencer, on peut s'engager. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, même si je suis de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Ce vendredi 6 avril 2012, nous parlons de l'administration du territoire. Comme vous le savez, plusieurs villes et communes ont été créées à travers le pays. Une série de décrets signés en février dernier par le Premier ministre sortant, Adolphe Mouzito, a été rendu public. Ces décrets concernent toutes les provinces du pays, à l'exception de la ville-province de Kinshasa. Et chaque province a au moins 3 villes et 10 communes nouvellement créées. Notons que c'est la province orientale qui vient en tête avec 18 villes et 44 communes créées. Elle est suivie de Bandundu, 12 villes et 41 communes. Le Kassai oriental a 10 nouvelles villes et 30 communes. Le Katanga est doté de 6 villes et de 24 communes. L'Équateur, le Maniema et le Bas-Congo ont chacun 5 nouvelles villes à la différence des communes qui sont à 22 pour le premier et 19 pour le second et 12 pour le troisième. Enfin, le Kassai occidental, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ont chacun 3 villes avec respectivement 37, 32 et 24 communes. Que pensez-vous de la création de ces nouvelles communes et villes? Nous en parlons dans ce studio avec M. Makolo Jubikilai, coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Marie-Chantal Talumba, Tissim Poutou sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Dédéni Nyangassa et Léonard Moulamba est à la supervision. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Vous pouvez également réagir en déposant un commentaire sur la page Facebook de Radio Capi. D'ailleurs, vous êtes très très nombreux à réagir à travers cette page, mais aussi par l'adresse pa@radiocapi.net. En attendant bien sûr l'arrivée de notre invité dans ce studio pour partager avec lui ensemble et vous vos préoccupations et votre point de vue sur la création de ces nouvelles villes et communes, nous avons déjà les auditeurs qui sont en ligne, comme Paulin qui est à Kisangani, Godefroy qui est à Kikwiti dans le Bandundu, mais on a aussi le message comme celui de Jacques Moulagiroi. Il nous écrit des beignets au nord de vous qui dit ceci, la création de nouvelles villes et communes, c'est une tournure inutile car ce décret a nommé même les zones rurales sans infrastructure administrative et sanitaire en des villes. À mon avis, le gouvernement pourrait premièrement combler les insuffisances rencontrées dans les anciennes villes, notamment la question salariale, des constructions de nouveaux bureaux au lieu d'en augmenter car d'autres qui vont venir seront moins équipés. C'est l'avis de Jacques Moulakiroi qui est à Béni, au nord Kivu. Pour l'heure, vous êtes en ligne de Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous les invités, donc à tous les auditeurs de la radio Capi, c'est qu'on est au Kisangani.
On vous écoute par rapport à ces décrets, oui.
Oui, à ce qui concerne ces décrets, j'aimerais d'abord dire que le Premier ministre a pris ces décrets au mois de février. À mon humble avis, je crois que pendant cette période, il expédiait déjà les affaires courantes parce que à la prestation des serments du chef de l'État, à ce moment-là, il devrait déjà démissionner. Mm-hmm. Ça, c'est un. Deux, les villes qu'on a créées nouvellement ne respectent pas la loi comme telle. Parce que moi, j'ai présidé au niveau de l'Assemblée provinciale la commission PAJ qui a tablé également sur les propositions de l'érection des nouvelles villes. Et j'ai compris que les députés n'étaient pas logiques avec la loi. Parce que la loi disait tout simplement que on ne peut considérer comme ville tout chef-lieu de province. Deuxièmement, c'est toute agglomération d'au moins 100 000 habitants. Mm-hmm. Disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du Premier ministre fera conférer le statut de ville.
Mm-hmm.
Et si vous le disiez très bien, quand on dit tout chef-lieu de province, cela signifie tout simplement que nous voulons rentrer dans les 26 provinces. Donc, les 5 provinces, plus la ville de Kinshasa, en fait 26. Mais aussi longtemps que les nouvelles provinces ne sont pas encore à vigueur. Donc, tous les chefs fouillés de toutes ces provinces-là ne peuvent pas devenir des villes. Parce qu'on essaie d'abord d'ériger les districts actuels en province pour que tous les chefs fouillés deviennent des villes. Donc, comme les districts ne sont pas devenus des provinces, il est tout à fait aberrant de convertir les chefs fouillés des districts en villes. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, donc si vous regardez de très près toutes les villes, dont la majorité des villes qu'on a érigées, ce sont des agglomérations qui ont moins de 100 000 habitants. Donc moins de 100 000 habitants, et il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas aussi d'équipement collectif ou économique important pouvant nous permettre de considérer ces agglomérations comme étant des villes. Donc, au niveau, je vous donne le cas de la province orientale, donc c'est le gouvernement provincial qui a fait rapport et a présenté le rapport à l'Assemblée provinciale. Et ce gouvernement provincial n'a pas fait un travail efficace sur le terrain. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, le député chacun voulait à tout prix que son coin devienne impérativement une ville. Ce qui n'est pas donc normal. Donc la loi n'a pas été respectée. Moi, ma proposition serait tout simplement de déconsidérer ce décret et de donner ce travail à une équipe solide, impartiale, qui peut nous produire un travail intéressant. Parce qu'on ne peut pas prendre un coin comme ça, dire que c'est une ville alors que ça ne mérite pas d'être une ville.
Merci Paulin, vous êtes député provincial, là vous appelez des Kisangani en province orientale. Notre invité est déjà dans ce studio, M. Makolo Jibikilaï, bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Radio Kapi pour éclairer l'opinion par rapport à la création de nouvelles villes et communes. Nous avons déjà les auditeurs qui interviennent, qui donnent leur point de vue, comme Paulin que nous avons écouté de Kisangani tout à l'heure, qui pense, lui, qu'il fallait attendre pour lui l'effectivité de 25 provinces, maintenant des 26 provinces, et comme ça, c'est leur chef-lieu pouvait être transformé en ville. Et la deuxième proposition pour lui, il dit qu'il y a des agglomérations qui ne répondent pas aux critères, qui n'ont pas 100 000 habitants selon la loi, qui n'ont pas d'infrastructure économique et sociale. Mais nous allons revenir à vous pour expliquer aux auditeurs comment on est arrivé à la création de ces nouvelles villes et communes. Mais on écoute aussi Godefroy qui est à Kikwi, qui est dans la province de Bandundu. Bonjour Godefroy.
Bonjour.
On vous écoute. Que pensez-vous de la création de ces nouvelles villes et communes?
Oui, merci. Je voudrais d'abord éclairer la lanterne de mon professeur tout à l'heure quant à la mise en cause de l'arrêt signé par le Premier ministre qui, d'après lui, n'a pas été signé à 100% parce qu'il a assuré, d'après lui, les affaires courantes. Mais je voudrais lui dire qu'il n'en est pas question, parce que le Premier ministre, en février, quand il a signé cet arrêt, il était dans un droit. Et il est des rares premiers ministres qui aient démissionné d'ailleurs sans résistance. Et je pense qu'il y ait que l'on mette en cause certaines de ces histoires qui se fait à la fin de son mandat. Mais il faut qu'on l'applaudisse. Bon, j'en viens un peu maintenant à la au contenu de cet arrêt et aux problématiques qu'il a proposées. Je suis moi aussi président de la commission PAG à l'Assemblée provinciale de Bandundu. Nous avons examiné cette question et nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans toutes les entités administratives. C'est juste à base de cela, parce que les enquêtes ont duré plus de 7 mois que le ministère ou la primature avait envoyé des enquêteurs partout pour s'assurer de régularité des éléments proposés, non seulement par les députés provinciaux comme on l'a dit, mais c'était juste les habitants des coins qui ont été consultés et qui ont trouvé que si la décision n'empiète pas au déroulement, disons, des secteurs, parce que les secteurs ne soient pas juste situés là où la commune est érigée,
c'était ça dans la loi, et qui, valablement, se trouvait glissé. Il était question, par exemple, de la commune de Lazata, dans l'Idiot Pamadi, Libélo et Kipouf. On a trouvé, et pour raison de proximité, parce que c'est cela la politique actuelle de la décentralisation, c'est de rapprocher les administrés des administrants. Et c'est sur base de cette intelligence-là que le Premier ministre a trouvé opportun que, même si la décentralisation n'est pas encore effective compte tenu de moyens logistiques et financiers, tout ce que nous connaissons, mais alors qu'on fasse une ébauche que chacun des habitants comprenne que quand les moyens seront réunis, nous appartiendrons à telle entité et nous appartiendrons à telle
entité. Oui, Godefroy, à partir de ce que vous avez dit, pour permettre aux auditeurs de comprendre, Godefroy, je voulais dire ceci. Selon la loi, parce que vous avez évoqué la loi, on dit le décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Contrairement à Poilin qui est à Kisangani, vous, au niveau de l'Assemblée provinciale dans le Bandundu, il y a eu un avis conforme pour que ces nouvelles villes et communes puissent être créées. Voilà un peu la question que je voudrais vous poser à ce niveau-là, Godefroy.
Nous avons donné notre pour que ces nouvelles entités soient créées. Mais les problèmes que je voulais évoquer tout à l'heure...
Allez-y rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens sur le standard.
Il y a un chevauchement là, un peu, un certain polarisement entre le chef de force d'encadrement administratif et le CDD, le commissaire de justice, je voudrais dire. Alors, il faut qu'on définisse clairement que deviennent les chefs de poste d'encadrement administratif, parce que les entités ne peuvent plus exister. Que deviendront les commissaires des districts? Il faut que ces gens-là, au préalable, sachent qu'est-ce qu'ils deviendront. À défaut du contraire, c'est dans l'ordre du guerre qu'on a ouvert avec les administrateurs de pouvoir qu'ils pourront pas gérer les spécificités.
Merci Godefroy, vous avez posé la question que l'invité pourra nous expliquer, que vont devenir le chef de poste d'encadrement administratif et les commissaires de district. Voilà, la question sera posée à notre invité. On va écouter Maurice Félicien Kinshasa et nous allons revenir dans ce studio pour répondre à ses préoccupations. Maurice, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie.
Vous avez suivi les deux amis qui sont intervenus de Kisangani et de Kikuit et ils sont concernés par les nouvelles villes et communes. À Kinshasa, vous n'êtes pas concerné. Mais quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Maurice?
Merci, je suis concerné dans le sens que c'est le développement global du Congo qui est concerné et que nous ne vivons pas à Kinshasa, nous nous déplaçons en province. Mmh. Et dans un premier temps, moi, je voulais donner mon avis favorable. C'est l'élément le plus par lequel l'histoire va se souvenir peut-être du premier ministre Mobutu. Pourquoi? Parce que, effectivement, aujourd'hui, le Nord, Kivu, le Sud, Kivu et Maniema comme province, c'est par la volonté de Mobutu. Et quand la décision a été prise, elle avait posé beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, personne ne doute que Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema sont des provinces effectives. Alors, je voulais dire que, dans un premier temps, je suis très content. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ambiguïté de la présence de la subdivision territoriale district dans la nomenclature. Alors que toute la loi, les lois organiques déjà promulguées ne permettent que à ce que les districts puissent exister en tant qu'entité territoriale administrative. Je crois que la discussion est là autour du respect de la forme de la loi. Mais de l'autre côté, nous avons un défi à relever, le développement. Rapprocher les administrés de l'administrant. C'est dans ce sens-là que moi j'ai trouvé que même si la loi disait qu'il fallait avoir 100 000 habitants pour répondre aux critères d'être défini comme ville, ou être directement un chef-lieu de province, et sous-entendu qu'effectivement, tous les districts devront devenir province, nous serons 26 provinces à l'époque. Mais il est important de savoir que maintenant qu'on a éliminé les districts comme subdivision, il fallait permettre quand même la naissance d'autres entités. On se pose la question de dire que deviendra le commissaire du district. Mais pour les agents du district, pour juste dire, le district dit, par exemple, si je viens, bonjour, nous les agents du district. C'est comme ça que, au travers d'une réflexion profonde, et des députés consultés, les députés provinciaux, le ministre ayant les affaires intérieures en ses attributions, et tout le monde, on a trouvé que effectivement, il fallait quand même trouver un consensus. Le premier consensus, une subdivision territoriale que nous avons aujourd'hui, répond aux critères des lois organiques et de la Constitution même. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a l'article 229 de la Constitution qui dit que quand les soldats des juges locaux, qui exercent carrément l'effectivité de la décentralisation, ne seront pas mis en place, il faudra que les institutions politiques correspondantes continuent à fonctionner sur base de la constitution de la transition. Et c'est là que je dis, c'est un dilemme. Et on devra nommer des maires, on devra nommer des maires adjoints, mais qui n'est pas conforme à la manière dont normalement la décentralisation le veut. Mais il faut le faire, il faut faire avec. Même s'il y a quelques lois qui peuvent être violées, déjà, la présidence de la République, la présidence de la République arrive parfois à faire une année avant de pouvoir promulguer une loi votée depuis 12 mois. Vous comprenez, c'est déjà une violation. Mais que faire? Quand on est au devant d'un dilemme, il faut choisir
ce qui est
bon pour le peuple. Pour moi, c'est que d'aller vers le développement. Or, aller vers le développement, c'est aller vers les entités décentralisées qui rapprochent ceux qui vont diriger de l'autre côté. Et bien sûr qu'il y a de la politique aussi dedans, parce que comme il n'y a pas élection, il faudra nommer ces gens-là. Or, quelqu'un qui est nommé ne rend compte qu'à l'ordonnance qu'il lui a donné mandat. Et là, on peut discuter, mais en tout cas, l'existence des entités, là, moi, je suis totalement d'accord.
Merci, Maurice.
Seulement, sur leur manière de fonctionner, là, on se pose un problème.
Merci.
Voilà ma participation que je voulais faire montre au travers de vos prévisions.
Merci, Maurice. Vous soutenez la décision, mais vous pensez que le problème se pose au niveau du mode de fonctionnement. Désiré, vous allez garder la ligne, vous êtes à Collégie. On va d'abord donner la parole à notre invité pour commenter cette première intervention des auditeurs. Et on va revenir à vous. Si vous voulez intervenir, appelez-nous au 080-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur Makolo Jibitilaï, vous avez suivi les trois auditeurs qui sont intervenus. Il y a, c'est bien sûr, le point de vue opposé, celui des Kisangani qui pensent que c'était pas vraiment le moment. Il y a des agglomérations qui ne répondent pas aux critères. Il se pose un problème de l'effectivité des 26 provinces. L'interférence, ils pensent qu'il y a eu l'interférence politique de ceux qui voudraient que leur coin, leur milieu devienne des villes. Il y a Godefroy qui soutient la décision, mais qui pose un problème de savoir comment on va s'adapter. C'est le même point de vue avec Maurice, avec les nouvelles lois, par rapport à tous ces mécanismes qui vont devenir les districts que nous n'avons pas encore ces 26 provinces. Alors, la première question que je vais vous poser, moi, pour aider à harmoniser le point de vue des auditeurs, c'est par rapport à ce qui a milité, effectivement, au niveau du gouvernement, à la création de ces nouvelles villes et communes.
Merci beaucoup. Je voudrais dire une fois de plus merci à Radio Capi pour cette opportunité qu'il me donne pour pouvoir éclairer l'opinion sur tous ces problèmes autour de villes nouvellement créées.
Mmh.
Et même sur les provinces ou à mettre en place. La première chose que tout le monde doit savoir, c'est que il y a une réforme profonde de notre organisation territoriale. Elle est profonde. C'est une réforme substantielle. Jusqu'à présent, nous avons une organisation territoriale dont l'organisation remonte à 1933. Et c'est le pays qui était divisé, la province en province, les provinces en districts, les districts en territoires, les territoires en secteurs et chefferies, etc. En 1957, on a ajouté les villes comme nouvelle entité territoriale. L'organisation territoriale que nous avons hérité de la colonisation et de passé. Nous avons maintenant une modernisation de cette administration au réseau territorial. Ainsi, il y a en exécution des dispositions de la nouvelle constitution. La constitution congolaise, 18 février 2008, met en place une nouvelle organisation. Il organise d'abord le problème des provinces, il a une multitude de nombres, et puis il désigne des entités territoriales décentralisées. De par le principe posé par la constitution, il fallait revoir toute l'organisation territoriale actuelle. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui, disons, 4 textes en place qui font que l'organisation territoriale est revue, revue fondamentalement. Aujourd'hui, vous avez d'abord la Constitution
de la République, oui,
et vous avez la loi 012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Donc, déjà, c'est là. Cette loi énumère, revoit tout ce que nous avions connu depuis 35 ou 37, 33. On dit la République compromptie en Dieu divisée en provinces. Les provinces sont subdivisées en villes et en territoires. Et les villes sont subdivisées en communes, les territoires subdivisés en communes, secteurs et
circonscriptions.
Donc, les choses sont tout à fait nouvelles. Et quand vous prenez la troisième loi, c'est la loi 00016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. On reprend les mêmes principes que dans la loi précédente. Les provinces sont subdivisées en villes et ainsi de suite, et les territoires. Et on définit les statuts de chaque circonscription territoriale. Les villes, les communes, les secteurs, les chefferies sont des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique conformément à la Constitution. C'est la Constitution qui les définit. Et le territoire, les quartiers, les groupements, les villages sont des entités déconcentrées. Et c'est la loi de la
Constitution.
Et dans toutes ces lois, il y a une troisième loi, une quatrième, la loi de 10 mai 2010, qui définit ce qu'on appelle l'organisation territoriale à l'intérieur des provinces, qui définit des circonscriptions territoriales déconcentrées, non pas décentralisées,
mais déconcentrées.
Qui déconcentrées, dans lesquelles il y a le territoire, le village, le quartier,
les groupements, les villages.
C'est ça, oui. Donc, les 4 lois, la Constitution et les 3 lois mettent en place une nouvelle organisation territoriale dans notre pays. On n'énumère plus le district, on n'énumère plus la cité. Je ne peux pas parler encore de post-encadrement
administratif.
La cité n'est plus cité dans les circonscriptions, dans la nomenclature des structures territoriales de notre pays, comme les districts non plus.
Voilà.
Donc c'est déjà supprimé. C'est une réforme. Une réforme ne reconduit pas nécessairement des structures anciennes, et donc des structures nouvelles. Quand vous prenez cette nouvelle réforme, le district, quel rôle avait-il à jouer? Le district était une structure de contrôle ou d'inspection des territoires. D'encadrement de la tutelle de secteur et de chefferie. Il avait un rôle de rôle. Ce rôle-là, il ne va plus le remplir parce que il est confié à d'autres personnes. Donc, supprimer un district ne pose pas un problème d'administration de la population. Administrer la population, c'est non seulement le recenser, mais c'est aussi veiller à ce qu'on rende service à la population, c'est veiller à ce qu'on applique les lois du pays, qu'on fasse les prestations de service en faveur de la population, etc. Donc, les districts n'avaient pas ce rôle-là, n'avaient qu'un rôle, donc ils n'administraient pas la population. Sa suppression ne pose pas de problème. Le rôle qu'il remplissait est dévolu au territoire, maintenant. Le rôle, alors pas conséquent, mais il y a un problème, c'est la cité. Quand la cité est supprimée, il y a un problème réel d'administration de la population. Puisque la cité administrait la population en dehors de la commune, du secteur ou de la chefferie, qui administrait, qui a eu un cas de la population. Or, il y a une population, quand on supprime la cité, une population qui reste sans une structure qui doit l'encadrer. Hein, et alors, par conséquent, il faut trouver et répondre à un problème. C'est celui, qu'est-ce qui va devenir cette population qui était administrée par la cité. La réponse, et tout de suite, c'est que la loi donne une réponse. Quand la population qui est administrée par la cité a atteint un chiffre de 100 000 habitants, la cité est remplacée par la ville. Et la population qui administrait la cité est moins de 20 000 habitants, eh bien, elle ne remplace pas la commune. Et la cité qui était chef-lieu de territoire est devenue et transformée en commune. Donc, la ville, les lois répondent à la réforme.
Voilà, parce que les lois répondent à la réforme. Mais si nous entrons, parce qu'il y a la réforme, nous y allons avec, si je peux dire, à deux vitesses, parce que les entités territoriales décentralisées ont leur... Les animateurs ont leur mode de désignation. Nous avons d'un côté les conseils communaux, on peut avoir les conseils urbains, et on doit passer aux élections pour avoir tous ces conseillers-là. On doit avoir un budget qui est élaboré par les conseils. C'est là peut-être que les auteurs ont posé le problème de savoir, là on est encore dans un système où on va nommer les animateurs pour qu'ils puissent travailler. Mais de l'autre côté, la loi prévoit que ces animateurs puissent être élus. Alors, à ce niveau-là de fonctionnement à deux vitesses, bien avant d'entrer dans les espaces autres, comment on va s'y prendre à ce niveau-là? Parce que ça, on a l'inquiétude de ces deux auditeurs.
Cette inquiétude ne se justifie pas. Puisque la Constitution dit que les entités territoriales décentralisées, qui sont les villes, les communes, les secteurs, les chefferies, jouissent de la libre administration. La libre administration suppose quatre éléments. Le premier élément, c'est l'élection des dirigeants de l'entité. Tous ces sont dotés de la personne juridique. Donc, il faut de l'élection. C'est l'élément principal de la libre administration. Quand il n'y a pas élection, il n'y a pas de décentralisation. C'est l'élément qui fait la décentralisation. L'élément essentiel, c'est l'élection des dirigeants. Deuxième élément, on peut continuer, deuxième élément, c'est le pouvoir de décision qui est donné à ces autorités, à ces organes qui sont élus, de pouvoir agir sans attendre une instruction de personne. Du moment qu'ils agissent dans le cadre des compétences dévolues à la ville, à la commune, au secteur ou à la chefferie, ils ont le pouvoir de décision, ils ont le pouvoir de prendre des initiatives et de pouvoir décider de leurs priorités dans leur commune, dans leur ville, leur secteur, leur chefferie, sans se référer à personne, même pas au gouverneur, pas au président, pas au gouvernement. Et c'est eux, la population locale, à travers leurs organes, conseil de ville, conseil de commune, conseil de secteur, qui décident de leur destin. Là, si vous voulez, c'est eux qui disent, voilà nos problèmes, le problème auquel nous sommes confrontés, et quels sont les problèmes prioritaires de l'année 2012, qu'est-ce que nous allons faire en 2013, qu'est-ce que nous allons faire en 2014. C'est que ce n'est pas pour le moment. Donc il faut qu'on mette en place, les conseils sont élus, ne sont pas nommés,
ils sont élus.
Et c'est pour ça qu'ils sont des entités territoriales décentralisées. Et ils sont dotés de la personnalité juridique. C'est comme un homme qui a le droit et des devoirs. Hein? Donc la ville, la commune, les services ont le droit comme une personne humaine, voilà. Physique. Mmh. Hein? Tandis que les entités déconcentrées, le territoire, le secteur, les quartiers, le groupement, les villages, ne sont pas dotés de la personnalité juridique, ne jouissent pas de la libre administration. Leur personnel et animateur sont nommés conformément à la loi, pas à la loi. Mmh. Oui. Alors, par conséquent, si aujourd'hui, il peut arriver que les animateurs de villes, des communes, des secteurs, des chefferies soient désignés, c'est pour faire face à une obligation de l'État assurer le fonctionnement régulier des institutions. En attendant l'élection, la commune doit fonctionner. On doit désigner quelqu'un qui va remplir un rôle, si vous voulez, intérimaire.
En attendant qu'on puisse avoir ces élections.
Oui, en attendant qu'on arrive à cela. Donc, ce n'est pas, on ne viole pas la loi, c'est pour assurer le fonctionnement régulier de l'administration de cela.
Oui. Nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup de questions que les auditeurs ont posées aussi, il y a des questions qui sont revenues par rapport aux infrastructures, tout cela on va évoquer, mais nous allons écouter les autres personnes qui sont sur les antennes. Hein, Désiré, vous êtes à Colosie, Albert est à Kananga, et Mary, vous êtes à Boutembo. On va vous accorder la parole pour que vous puissiez nous accorder votre point de vue sur ce que vous pensez par rapport à la création des nouvelles villes. Quelles sont les vos préoccupations aussi? Et nous allons cheminer ensemble ainsi jusqu'à la fin de cette émission.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie. Paroles d'enfants. Rencontre avec les Congolais de l'étranger. Inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.org.
Désiré, vous êtes en ligne de Colosie au Katanga, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Désiré Kampach à Colosie, comme je l'avais dit, c'est en province du Katanga.
On vous écoute, Désiré.
Bon, mon souci, comme l'a dit un auditeur, il fallait attendre, oui, mais c'est parce que depuis que l'écrit a été publié par le premier ministre Adolphe Mouzito qui est parti, puisqu'il n'est jamais mis en application. En comprenant, moi, je suis des districts du Valaba. Dans ce district, il y avait trois communes rurales qu'on fallait, n'est-ce pas, être mises en application. Jusque-là, il y avait, trois ou quatre comme ça. Jusque-là, il n'a jamais été mis en application ce décret-là. Bon, il fallait pas même publier ce décret-là par rapport à la non-applicabilité de ce décret-loi.
Oui, Désiré, votre souci est de savoir quand est-ce qu'on va mettre en application les décrets, quand est-ce que vous allez vivre effectivement la ville et les communes là où vous êtes, non, les Lualaba, c'est ça votre souci?
Oui, ça c'est mon principal, n'est-ce pas, mon principal souci majeur. Quand est-ce qu'il sera mis en application ce décret publié par le ministre? Il est parti sans que ce décret-là soit mis en application. Et qui va le mettre en application? Et au Congo, est-ce qu'on vit seulement? Bon, il y a des bons parleurs, mais pas des bons faiseurs.
Voilà, vous voulez savoir quand est-ce qu'il sera mis en application et par qui, parce que celui qui a pris le décret n'est plus au gouvernement. C'est ça votre point de vue? L'invité pourra nous dire quand est-ce qu'on va connaître l'effectivité de ces nouvelles villes et communes. Albert, vous êtes à Kananga, bonjour. Albert, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, monsieur Perrault, moi j'ai deux préoccupations, deux inquiétudes.
Oui.
Je venais de suivre la papa Makolo, excusez-moi de l'appeler papa, c'est notre papa, il est expert dans la matière de la décentralisation.
Oui.
Dernièrement, il était à Kananga, il était venu animer un séminaire au cours duquel le chef de cette chef de cité, le maire de ville, les bourgmestres avaient pris part. Les discours qui vient de tenir sur les antennes, c'est le même presque qu'il avait tenu lorsqu'il a été ici,
mm-hmm.
au Kassai occidental, à Kananga, à Chimbulu, à Luebo, à Chikapa, et après son départ. Bon, ma préoccupation maintenant, c'est quoi? C'est la confusion. Parce que les lois organiques sont là, la constitution est là, mais dans notre province, rien n'est respecté. Les conseils de justice n'ont pas encore compris qui sont des entités de concentrer, ou même les districts ont cessé d'exister avec notre constitution. Les administrateurs de territoire, eux, ne veulent pas entendre parler de la décentralisation. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, créer des villes, créer des communes, c'est bien bon. Mais ils vont fonctionner avec quel argent? Quel fonctionnement? Parce que vous-même, vous savez, dans notre pays, en dehors du début congolais, il y a un autre hymne. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Les villes, les communes, les secteurs, les secteurs ont droit à ce qu'on appelle rétrocession, que le gouvernement central donne ou leur envoie ou leur rétrocède.
Mm-hmm.
Mais quand ça arrive en province, cet argent-là va où? Si vous pouvez demander au bourgmestre, au chef de secteur et les autres, les entités de faire décentraliser, qui ont un budget, qui ont la personnalité juridique, il y a un fonds que le gouvernement central envoie. Est-ce qu'il reçoit pour ça? Comment la province du Kassai occidental, qui a vu jusque-là deux villes, n'est pas à même de rétrocéder l'argent? Les villes n'ont rien. Comment, avec cinq ou six villes, la province pourra cette fois-ci rétrocéder beaucoup d'argent pour qu'on puisse reconstruire ou construire les nouveaux bâtiments, les édifices qui pourront abriter les différents services? Moi, je pense ce que notre premier ministre sortant pouvait faire, c'était quoi? Au lieu de multiplier les villes et les communes, c'était bien asseoir la décentralisation et renforcer, c'est-à-dire organiser un suivi pour qu'on voie est-ce que ce qui a été adopté au travers de la constitution et de l'ordre organique, cela est de mise ou c'est bien appliqué sur le terrain. Voilà un peu mes préoccupations.
Merci Albert. Vous pensez qu'il y a des confusions aujourd'hui, hein, les conseils de district, il y a les administrations des territoires qui ne veulent pas entendre parler de la décentralisation. Vous rejoignez un peu à désirer pour savoir quand l'effectivité de ces mesures, mais il se pose un problème d'où vont provenir les ressources financières pour faire fonctionner ces nouvelles villes quand déjà il y a un problème de rétrocession avec les entités existantes. Merci beaucoup. Vous êtes à Kananga, nous allons à Boutembo et Méry, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, merci. Pour la parole, c'est moi, Emery Lumumba,
mm-hmm.
de Boutembo.
Aujourd'hui,
le thème choisi, M. Piro, le thème est très intéressant pour les compatriotes et les politiciens congolais qui attendent cette émission. Ceci dit, le décret étant signé, le ministre partant, Adolphe Mujito, à soi, ça ne poserait pas un grand problème. La seule question que je suis en train de me poser, est-ce que le gouvernement congolais a pris l'état de repasser ou alors de faire l'état de lieu de nos anciennes villes, les communes et chaufferies, M. Piro. Car d'après moi, depuis 1920 jusqu'à 1960, constatez avec moi, M. Piro, que nous avions des théoriciens en même temps des praticiens. Les politiciens congolais du 19e siècle, M. Piro, sont là pour voter des lois. On les piétine, puis on les jette sous les lits. Qu'on fait la décentralisation, M. Piro, ou bien on vote des lois, ou on ne les applique pas, comme ça, nous restons dans la jungle, ou carrément dans une république bananière. Pour moi, M. Piro, je ne vois pas la nécessité d'appliquer ces décrets-là. Tout simplement, la quasi-totalité des fonctionnaires de l'État vivent de façon misérable, avec leur prime dérisoire qui n'arrive après 3 mois. Et je pense qu'au lieu de créer des villes, des communes, des chefferies, il faut qu'on voie quand même un grand changement de la part de ces fonctionnaires-là de l'État.
Avant d'ajouter d'autres fonctionnaires,
par exemple, les primes, il faut qu'ils reçoivent des primes à temps réel. À ce moment-là, ils ne manqueront pas de l'argent, par exemple, pour honorer la facture du courant. La facture de la régie des eaux.
On vous a suivi, Amélie. On vous a suivi, Emery, vous pensez qu'il se pose un problème sur le terrain, l'état des lieux d'essai qui existait déjà, et au lieu d'ajouter d'autres villes, d'autres fonctionnaires, il faudrait d'abord pouvoir renforcer ce qui est sur le terrain avant de créer des nouvelles villes. C'est votre point de vue. Nous écoutons aussi rapidement Amen, qui est à Kindu, dans le Maniema. Bonjour. Amen, vous êtes en ligne. Bonjour, excusez-moi, c'est Amen, c'est pas Amen, mais merci beaucoup de la réalisation. Amen, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Alain Mayola, pas Amen. Alain Mayola.
Alain, voilà, merci, on vous écoute, on a eu des petites difficultés, on va bien vous suivre là. Vous êtes à Kindu, on vous écoute rapidement par rapport à ce sujet autour de nouvelles villes et communes créées.
Oui, selon moi, c'est une bonne initiative. Parce que d'ailleurs, comme on est mort, on avait une seule ville, qui est la ville de Kindu.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, je viens d'écouter, comme on est mort, nous aurons 5 villes.
Mm-hmm.
Vraiment, c'est une bonne initiative. Et on avait aussi 3 communes seulement. Vraiment, ça peut développer notre province.
Mm-hmm.
Nous sommes ravis, c'est bon. Et on ne sait pas seulement à quelle date cet arrêté sera mis
en application. Merci Alain de Kindu. Vous pensez, vous réussissez quand même que la province puisse avoir maintenant 5 villes. Là, on connaît aussi d'autres communes, mais... Et à quand cela va être effectif? Nous allons aussi écouter M. Maître Gilbert et Katinge. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Nous avons traité avec vous plusieurs fois les questions de la décentralisation dans cette émission Parole aux auditeurs, mais aujourd'hui nous parlons des nouvelles villes créées. Vous avez suivi depuis le début de l'émission, il y en a qui ont pensé que c'est bien, c'est pas bien, ce n'était pas le moment, il fallait d'abord penser aux ressources et puis tout ça sous terme. Quel est votre point de vue égard à tout ce que les autres ont déjà dit par rapport à ces villes et les inquiétudes des auditeurs sur leur fonctionnement et aussi les ressources?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Je voudrais commencer par saluer les auditeurs de la radio Okapi et présenter mes hommages au doyen Marco Le, qui est votre invité principal et avec lequel nous avons abattu un très grand travail dans le domaine de la mise en œuvre de la décentralisation. Et je voudrais tout simplement, en répondant à cette question, dire que la question ne se pose pas en termes de savoir si le premier ministre a bien agi ou s'il a mal agi, car il s'agit tout simplement de l'exécution de la loi.
Mm-hmm.
La loi avait déjà prévu qu'on créerait, on érigerait certaines agglomérations qui répondent à certaines conditions. On les érigerait en ville et en commune selon le cas de subir que le doyen a expliqué. Et donc, lorsque le Premier ministre prend son décret, après avoir obtenu des avis des assemblées provinciales, c'est-à-dire les avis des honorables députés provinciaux qui sont censés être les représentants des populations dans leur province respective, eh bien, je crois qu'il n'a fait que son travail, il n'a fait que mettre en application la loi, en l'occurrence la loi 08/16 du 7 octobre 2008 sur les entités territoriales décentralisées.
Mm-hmm.
Mais je pense également, lorsqu'on laisse de côté ce point de vue juridique, je pense également qu'en faisant cela, le Premier ministre vient de laisser à d'autres pays le plus grand cadeau qu'il méritait bien. Parce que il a été démontré de par le monde que le développement d'un pays commence toujours à la base. Donc nous ne pourrons jamais développer notre pays si nous attendons tout de la capitale. Et c'est donc la question de la mise en œuvre de ce décret ne peut pas amener les gens à formuler des inquiétudes, mais plutôt à s'interroger comment on va mettre en œuvre ce décret. Et cela commencerait par sa publication au journal officiel, parce que je me souviens que ce décret prévoit que son entrée en vigueur est subordonnée non pas à sa signature, mais à sa publication au journal officiel.
Il est donc important
que le décret soit publié au journal officiel pour qu'il entre en vigueur. Il est également important que les ministres de tutelle, les ministres compétents, qui seront chargés de l'exécution de ce décret, puissent rapidement être désignés pour qu'ils commencent à œuvrer pour la mise en œuvre de ce décret.
Voilà.
Et que ces entités territoriales décentralisées puissent commencer à fonctionner effectivement en attendant les élections.
Mm-hmm.
Il s'agira donc de désigner les autorités de transition qui vont préparer l'arrivée des organes locaux qui pourront exercer ce nombre d'attributions qui vont permettre à la population de se sentir administrée de plus près.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Gilbert Katungé, de nous avoir accordé vraiment ces points de vue. On tend déjà vers la dernière partie de l'émission. On va lire quelques messages et permettre à notre invité de pouvoir répondre à ses préoccupations. Baraka Akaran, qui est à Goma, dit ceci. J'aimerais savoir quelles sont les raisons qui ont poussé l'ex-premier ministre Mozito à créer ces villes et communes. Là, qu'est-ce qu'il a déjà répondu. Joël Mbille de Kisangani dit ceci. Je salue cette décision car ça permettra de développer la RDC. Calvin Makoso de Goma. Bonne chance, ça permettra de mettre fin à l'exode rural, mais l'on doit aussi penser à équiper ces nouvelles villes. Edgar Timbonera, qui est à Bukavu, Bagira, dit ceci, mauvaise idée, parce que pour moi, c'est multiplier l'étendue de l'insécurité qui dépassera la gestion des dirigeants sur les moyens des provinces que nous avons. Pour moi, c'est comme manquer une bonne récolte dans un petit champ. Et puis, penser à l'élargissement avec les engrais. Marcel Kabongo Tikala qui est à Lubumbashi, nous ne voulons pas la comédie, mais plutôt le bien-être de la population, qu'on mette beaucoup de fonds en jeu pour le développement de ces nouvelles entités. Désiré qui est à Bukavu, la priorité du peuple congolais n'est pas la création des villes et communes. Pourquoi les autorités politiques congolaises ont toujours dévié les vrais problèmes? Pourtant, il est bien connu l'amélioration du social. Pourquoi créer d'autres villes et pourtant celles qui existent ne respectent pas les normes? Selon moi, c'est aller vite en besogne. C'est une initiative qui va échouer, surtout que la population n'a pas été préparée à cela. Patrick Kassemengo de Goma, la création des villes et communes nouvelles n'est pas une priorité car l'urbanisation de celles qui existent aujourd'hui est un véritable problème. Et Charles Essombo Yale de Mandakia, créer des villes c'est bon, mais ce que nous voulons est que toutes ces villes remplissent les priorités suivantes. Environnement propre, dans le respect des normes, développement communautaire axé sur les quartiers, distincte et vivable, inclusion sociale, prospérité économique, créativité riche en patrimoine, diversité culturelle, saine et active. Et enfin, parfait, Babouine de Bukavu dit ceci, j'ai salué cette noble idée longtemps attendue par la population congolaise ou le respect des lois républicaines, mais l'on se demande si celles-ci seront urbanisées pour être appelées villes. Voilà, nous gardons d'autres messages parce qu'on va les exploiter vers la fin de cette émission. Il y a Gaston qui s'intéresse à garder la ligne, monsieur. Nous allons vous accorder la parole juste après l'intervention de notre invité.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Mokolo Jubikilaï, après avoir écouté les explications juridiques, vous l'avez dit, Maître Gilbert Katunga a complété, il y a maintenant un problème qui se pose, c'est par rapport aux ressources. Les auditeurs posent le problème de savoir les villes qui existent et les communes ont de sérieux problèmes. Le problème des rétrocessions, comme l'ami de Kanangala dit, continue à se poser pour les entités décentralisées qui existent déjà, mais ajouter d'autres. Comment vont-elles vivre ces entités par rapport aux ressources et aux infrastructures?
Oui, merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants pour leurs questions. Elles sont pertinentes de leur part. Je voudrais d'abord faire une observation générale à entendre tout ceci. Tout le monde est dans ce que j'appelle, moi, dans les pensées négatives. Les pensées négatives, c'est lorsque on constate qu'il y a un mal, alors on ne peut rien, on doit se résigner, on doit accepter seulement le mal et laisser s'aggraver, ne rien faire, et parce qu'il y a des mal. Ce n'est pas parce que les villes ou les communes actuelles ne fonctionnent pas bien qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres. Il ne faudrait pas avoir une telle idée. Il faut changer de mentalité, nous devons nous adapter. Il faut que nous puissions moderniser l'administration de notre pays. Les villes et les communes, comme le CPRI, etc., qui ont existé, ont des moyens. Mais il y a une mauvaise administration. Les villes et les nouvelles communes qui vont être créées, comme les anciennes, ont des ressources que leur reconnaisse la loi. Elles sont nombreuses.
Il y en a beaucoup
dans ce sont là. Et on ne les a pas encore mises en œuvre. Ces lois, on n'a pas encore mis. Il y a plusieurs textes qui doivent leur permettre de percevoir ces taxes, ces impôts qu'on leur reconnaît. Et quand on aura mis en place des organes de ville, des organes de communes, et qu'ils vont percevoir, qu'ils vont disposer de moyens, leur sont reconnus par la loi, et ils vont, vous allez percevoir qu'il fallait qu'il y ait des communes et des villes pour trouver des solutions à certains problèmes. Ils sont nombreux auxquels la population congolaise est confrontée dans leur milieu de tous les jours. Que ce soit les problèmes de communication, de voies, de voiries, que ce soit les problèmes d'eau, les problèmes de route, que ce soit les problèmes d'électricité, que ce soit les problèmes de salubrité, que ce soit les problèmes des écoles, que ce soit les problèmes de l'environnement en général, que ce soit les compétences que nous appelons les compétences de proximité données aux villes, aux communes, aux secteurs, aux CPI, qui ne peuvent plus être exercées par l'État central, ni pas par la province, mais par le pouvoir provincial. Regardez, à Kinshasa comme ailleurs, vous avez même des bureaux des communes qui sont inaccessibles parce qu'il y a de l'eau qui stagne tout autour et il n'y a personne qui trouve des solutions. S'il y a un conseil communal, il va interpeller les bourgmestres et dire mais comment n'est pas arrivé à notre à votre bureau, on doit enjamber, il y a de l'eau qui stagne. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas d'organe de contrôle, d'organe de décision. Nous avons des personnes qui ne répondent, je ne voudrais pas
dire la personne.
Ils rendent compte à ceux qui ont permis qu'ils soient là. S'il a été désigné par un parti politique, il a des comptes à rendre au parti politique. Donc, il ne rend pas compte à la population.
Parce qu'on va un peu, malheureusement, le temps ne va pas nous permettre de tout liquider. Il y a des questions qu'on a posées, savoir à quand l'effectivité vraiment de ces nouvelles villes et communes.
Parce que là, on est vraiment pas préparé. Voilà, alors pour que vous compreniez l'effectivité, c'est vous, les intervenants de tout à l'heure, qui retardez la mise en œuvre de ces décrets.
Comment?
J'explique. D'abord, les décrets qui viennent d'être publiés maintenant au journal officiel, c'est une deuxième édition de décrets. Il y a eu d'abord la première catégorie de décrets qui ont été pris l'année dernière, fin 2009, début 2010. On les a aussi contestés par d'autres personnes, parce que dans leur village, on n'avait pas créé des communes ou des villes. On a trouvé que ce décret avait été entaché de certaines irrégularités, qu'on n'avait pas vu l'avis des assemblées provinciales, qu'on avait dépassé les limites, et ainsi de suite. On a demandé qu'on puisse le refaire. On les aurait déjà appliqués depuis deux ans.
Et maintenant,
on a demandé.
On ne peut pas les contester maintenant.
Actuellement, ils sont là. On ne veut pas les annuler. Ils ne sont pas annulés. Mais par suite de certaines erreurs qu'on a constatées quand même dans les nouveaux décrets, eh bien, ils vont donc corriger ces erreurs pour qu'ils soient mis en œuvre, appliqués aussitôt que possible.
Et on est vraiment pressé par le temps. Nous allons écouter rapidement Gaston qui est à ça parce que vous allez avoir le temps de conclure cette émission. Gaston, vous êtes en ligne, bonjour. Gaston, vous êtes là, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Vous voyez que nous sommes vraiment pressés par le temps. Vous êtes les derniers auditeurs. Peut-être en une minute, votre point de vue. Vous avez suivi les uns les autres depuis le début de cette émission. On vous écoute.
Oui, j'aimerais tout simplement dire que nous n'avons pas de moyens. Notre État n'a pas de moyens. C'est bon, il y a des projets. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette façon-là de concevoir que les communes, les villes, les chefferies, ainsi que les secteurs deviennent des entités décentralisées. Ce qui nous manque, ce sont des moyens.
Les moyens.
Comme Maban Doundolo, on a dit la création de plusieurs villes. Arrivé un peu à Idiofa. Idiofa, c'est parmi les villes qu'on doit créer. Est-ce que normalement, il n'y a pas de critères pour qu'on ait une ville Il faut qu'on fasse à la Congolaise, tout se fait à la Congolaise. Donc, nous avons aussi notre manière, en tant que Congolais, de concevoir les choses qui ne s'adaptent pas avec les réalités.
Pour vous pensez qu'il faudrait avoir un certain standard, peut-être international, pour dire que ce sont ces critères-là qui
vont être créés. Oui, par exemple, je vais vous donner en Angola. Quand vous arrivez en Angola, lorsqu'on appelle une entité, une ville, c'est pas comme Idiofa qu'on veut qualifier d'une ville actuellement. Disons que ce sont des choses qui se passent à la Congolaise, comme je venais de le dire.
Voilà.
Mais nous n'avons pas de moyens.
C'est trop beau
de prévoir les choses sur le plan des terres. Donc on a vu ça. Mais
voilà, merci disons, beaucoup.
Avec les moyens que nous avons, essayer de prioriser nos questions.
Merci Gaston. Merci Gaston. On ne pourra pas aller plus loin. Nous n'avons que deux minutes pour terminer cette émission. En lisant aussi rapidement ces messages, ce sont Feston, Kasserik a dit ceci, cette idée n'est pas bonne, que le gouvernement aménage d'abord les villes qui existent avant de créer d'autres. Bon, beaucoup de gens sont revenus là-dessus. Bakar Yves Mozaliou a dit ceci, on a des villes qui n'ont même pas un niveau de développement que certains villages dans d'autres pays d'Afrique. Ne pouvons-nous pas éviter les ridicules? Nous avons Urbain Minimal et des Goma. Nous constatons qu'avec regret de voir le gouvernement qui a eu 5 ans au pouvoir n'a pas pu matérialiser la décentralisation durant le règne et doter la RDC de 26 provinces pour faciliter l'autonomie. C'est à la fin du mandat qu'on signe un décret qui aura des conséquences qui peuvent attiser des conflits fonciers qui existent dans certaines provinces. Vraiment, on ne pourra pas aller plus loin. Monsieur Makolo Jibikilaï, nous avons là peut-être 1 minute 50 secondes pour que nous puissions clôturer cette émission. Peut-être qu'on pourra revenir parce qu'il y a beaucoup de questions. On sent vraiment le souci là de pouvoir expliquer beaucoup plus que les gens comprennent ces mesures. Mais à partir de cette première émission, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir en définitive?
Ils doivent retenir que il faut un commencement. Mm-hmm. Cette nouvelle réforme va être mise en œuvre, mm-hmm. va être appliquée. Et ils vont voir les résultats. Mm-hmm. Lorsqu'aujourd'hui on a créé la ville de Butembo, ou de Beni, ou de Tikapa, il y a 3, 4, 5 ans, on était au niveau où se trouvent les autres villes. Mm-hmm. Il n'y a aucune ville au monde qui a été créée dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. On a commencé par un embryon, et cet embryon, la population, l'aide à se développer. Et c'est ce qu'on va faire pour nos villes.
Voilà.
Et je connais particulièrement la population, les dynamiques de la ville d'Idiopa. Je connais les gens d'Idiopa, ils ont une grande dynamique, ils sont capables de transformer leur village en véritable ville.
Merci beaucoup, M. Makolo Jibikilaï, d'avoir accepté de répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation. On va se retrouver avec vous le lundi. Nous allons parler politique avec les processus, les récents processus électoraux qui a vu l'opposant au Sénégal remporter l'élection présidentielle. Il a été félicité par le président sortant. Que vous inspire les procès électoraux au Sénégal? Déposez vos commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Au revoir et surtout bon week-end à tous en compagnie de Radio Capi. Nous remercions toute l'équipe qui a aidé à produire cette émission.